C'est 10 degrés sur Québec actuellement. Est-ce que ça va se réchauffer? Allons voir ce qu'on nous annonce comme météo. Maximum de 15, donc ça pourrait se réchauffer cet après-midi. Partiellement nuageux pour ce soir. Peut-être un peu moins de pluie là, actuellement sur le territoire. Il y a certains endroits où il pleut ou d'autres pas pantoute. Mais si c'est pas le cas, ben, la pluie va s'en venir dans les prochaines secondes, les prochaines minutes. Pour ce qui est de demain, mercredi, ce sera nuageux avec un 40 % de probabilité d'averse en après-midi. Un maximum de 18 degrés. Jeudi, ce sera nuageux, un maximum de 14. Et vendredi, ce serait de la pluie intermittente avec un maximum de 12. C'est... on revient de 3 jours de congé, là. Je regarde le topo. Je pense que le soleil pourrait revenir dimanche prochain, 25 mai. Re-salut!
C'est pas encourageant, ton affaire!
Mais la bonne nouvelle, c'est que la météo se trompe souvent. Fait que, ouais. Tu sais, des fois, on peut laisser présager que ça va arriver peut-être demain, après-demain.
Je t'en manque de lumière.
On vit d'espoir! 418-971-1021, 418-971-1021. Sur la route, comment ça se passe?
Si vous êtes sur Richard et Ouest en ce moment, à la hauteur de Duplessis, la voie de droite est partiellement entravée. C'est une panne. Le remorquage est en cours. Pour le reste, ça roule super bien. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, vous ne vous gênez pas, ça passe par le texto 971-102.
On a le plaisir d'accueillir en studio Jimena Ruiz Harago, qui est directrice générale de SAPSA. Bonjour, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va bien et toi?
Ça va très bien. Nouvellement directrice de SAPSA, donc félicitations.
Oui. Merci beaucoup.
Pour les gens qui ne connaissent pas la clinique SAPSA, qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, donc SAPSA, ça veut dire service à bas seuil d'accessibilité. Donc, on a autant une clinique qui offre des soins par des infirmières IPA pour des personnes qui n'ont pas accès nécessairement au réseau, donc des personnes qui sont désaffiliées du réseau. Ouais. Et ça peut être des personnes qui sont soit en situation d'itinérance, ça peut être des personnes qui n'ont pas de statut. Donc, nous, on ne pose pas vraiment de questions, on ne prend pas la RAMQ et on leur offre des soins de santé, là, ce qui aide également à dégager un peu là, l'achalandage dans les urgences. On a également des volets de services, donc un service de consommation supervisée qu'on a une co-gestion avec le CIUS, la capitale nationale. Okay. Et on a également une vérification de substances. Là. Donc, on a une vanne qui se promène beaucoup dans les festivals, qui va dans des endroits où les personnes sont susceptibles d'avoir des substances. Donc, on peut les vérifier pour qu'ils sachent c'est quoi qu'il y a dans leurs substances. Et une clinique mobile également. Là. Donc, on se promène dans des endroits là, pour offrir nos services.
Et maintenant, quand tu dis on a des infirmières praticiennes, c'est des IPS, c'est des infirmières praticiennes.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est pas des docteurs, mais ils sont en mesure de t'accueillir dans leur cabinet, puis t'évaluer, puis prescrire des médicaments.
Oui, c'est ça. Donc, souvent, il va y avoir peu de choses que les infirmières praticiennes ne peuvent pas faire comparativement à un médecin famille. Il y a quand même des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Mais, par exemple, sur 5000 visites qu'on va avoir, bien, à peu près 2% de ceux-là qu'on va référer là, aux urgences. Là. Donc, elles sont capables de faire beaucoup de choses. Là.
Vous accueillez combien de personnes à SAPSA par année? Vous aidez combien de personnes?
C'est sûr que ça dépend. Donc, à la clinique en tant que telle, on a près de 5000 rendez-vous ou 100 rendez-vous.
Wow. Hmm.
Sinon, le service de consommation supervisée, là, on va dépasser les 30 000 visites. C'est ce qui est quand même beaucoup.
30 000?
Oui, donc on va chercher quand même beaucoup de personnes là, dans nos différents volets de services.
Okay. On ne les voit pas, ces gens-là, nous. Hein? Mais vous autres, vous les voyez passer à tous les
jours.
Oui,
c'est ça. C'est sûr que nous, on les voit. Puis il y a plusieurs personnes qui vont... avoir accès à plus qu'un volet de service. Donc, quelqu'un qui va aller au service de consommation supervisée, on a quand même une trajectoire qui fait en sorte que par la suite, cette personne-là, elle peut avoir des soins de santé qui sont offerts dans la clinique. Là. Donc, on a quand même plusieurs personnes là, qui utilisent plusieurs volets de SAPSA.
Quand on parle de drogue, est-ce que les gens sont gênés? Là, tu me dis 30 000 personnes, mon réflexe, c'est de dire non, là, mais les gens sont-ils gênés de venir vous voir? Parce que moi, je me souviens que j'ai vu votre van se promener à Cigale l'été passé, puis c'est là que, mon Dieu, j'ai pris conscience de ce que faisait SAPSA dans son entièreté. Mais est-ce que les gens sont gênés de venir vers vous ou pas tant, de plus en plus, c'est connu puis ça prend place?
Bien, de plus en plus, les gens sont à l'aise, mais c'est sûr que c'était un festival, il y a quelqu'un qui vient de voir, hey, veux-tu faire vérifier ta substance? Tu le sais, qu'est-ce que tu possèdes? T'es pas supposé le posséder sur toi. Donc, il y a comme peut-être une petite gêne, mais il y a beaucoup d'éducation qui est faite par nos intervenants. On leur explique, non, tu sais, on a vraiment une extension de Santé Canada pour pouvoir vérifier ta substance. Donc, ça prend quelques minutes, puis par la suite, tu peux savoir ce que tu consommes réellement. Donc, on fait beaucoup d'éducation, là, entre autres, dans les festivals.
Puis ça, les services de police, sont-tu conscients de ça? Parce que, mettons que je suis un policier qui veut faire respecter là, la loi et l'ordre à la lettre, je me tiens à côté de la clinique SAPSA, puis tout le monde... Quiconque veut rentrer ou sortir, je le fouille, là.
T'sais. Bien, on parle beaucoup. On a vraiment un canal de communication qui est très ouvert avec le service de police. Donc,
ils sont conscients. Ils sont conscients de l'importance que
vous
avez dans la société.
ils vont pas se tenir justement à côté du service de conso pour arrêter n'importe qui passe, là, mais c'est sûr que ça reste leur devoir là, de s'assurer qu'il n'y a pas de trafic qui se fait et tout. Là, donc, ils vont quand même être conscients, mais on a un bon canal de communication, puis le but, c'est pas qu'il arrête quelqu'un là, qui sort de sa psa. Ça, trop...
ça changerait complètement votre mission. Là.
la dope à Québec, qu'est-ce qui circule comme dope à Québec présentement?
En ce moment, c'est vraiment inquiétant parce que ben il y a beaucoup de bon il y a de la freebase, la cocaïne et tout, mais on retrouve ben de plus en plus de fentanyl, là, ce qui est quand même inquiétant. Ouais. Là.
Ça c'est un médicament qui est plus puissant que l'héroïne.
Oui, c'est ça, c'est vraiment plus puissant. Donc souvent on va le mélanger avec la cocaïne parce que ça coûte moins cher, donc c'est plus facile à transporter. Mmh. C'est vraiment une question de business au final, mais c'est vraiment plus dangereux.
C'est
là.
Triste parce que c'est il y a une semaine et demie, deux semaines qu'on voyait dans l'actualité un père de 32 ans,
ouais.
32 ans, mon Dieu, du côté de Montréal, par exemple, ouais. Dans le sud de Montréal, qui est décédé parce qu'il consommait de la cocaïne qui était coupée justement avec du fentanyl. Là.
Ouais, c'est
fou, là. Un père de deux enfants, 32 ans, tu commences ta vie.
Oui. Ouais. Parle-moi un peu, détermine-moi c'est quoi cette drogue-là. Tu sais, moi, je connais pas les drogues, puis je pense que les auditeurs sont pas des grands connaisseurs de drogue non plus. Tu sais, tu me parles de freebase.
Ouais.
C'est quoi exactement la freebase?
Ben, tu sais, quand on parle justement de ça, ben, souvent, on va parler de cocaïne, on va parler de tout ce qui est héroïne, ouais. On va parler. Donc, il y a plusieurs sortes de drogues. Il y en a qui s'inhalent. Il y a des drogues qui vont être consommées par... ben plus s'injecter. Donc, il y a différents types de drogues, en okay. effet. Le problème en ce moment, c'est qu'on ne le sait pas tout le temps, c'est quoi qu'il y a dans la drogue qu'on vient consommer.
Parce que c'est juste qu'en tant que parents, ils sont encore trop jeunes, là, 12 ans puis 9 ans. Mais je ne suis pas sûr que je serais capable de reconnaître toutes les drogues
qui
circulent. C'est sûr qu'il y a certains que si je le vois avec une cuillère et de la poudre dedans et un lighter, d'après moi, je vais avoir un bon indicatif.
T'as
que...
une petite idée.
Il est loin de Fortnite, OK? mais c'est ça. Donc, la freebase, le crack, est-ce que ça circule à Québec?
Oui, ben c'est ça. Donc, le crack, souvent, ça va être un peu de la freebase aussi. Là.
Okay.
Donc, oui, ça circule. Mais c'est normal qu'on ne sache pas c'est quoi toutes les drogues. Là. On n'est pas des... Ben OK, ben ça, oui. Mais comme vous, les personnes qui nous écoutent, ce n'est pas des experts. Et c'est pour ça que c'est important de, justement, des organismes comme nous, on peut vous informer.
Ouais. Fait que là, juste que je comprenne bien, le principe de freebase, c'est tout ce qui se promène.
Non, c'est ça. C'est vraiment un type de drogue qu'on vient couper. Là,
couper, donc, OK. Fait, c'est le mélange en finalement
gros,
de drogue.
Oui, en gros, c'est ça. Là. Bon, je ne suis pas la chimiste ici, là, mais en effet, là, c'est un type de drogue. Quand les personnes, par exemple, arrivent au service de consommation, nous, on questionne à savoir c'est quoi tu viens consommer aujourd'hui. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'avoir une idée là, de qu'est-ce qui est le plus consommé ce temps-ci.
Avez-vous des chiffres par rapport à l'augmentation, mettons, de la consommation de drogue dans la capitale nationale?
Par rapport à l'augmentation, ben c'est sûr que le fait qu'on voit qu'il y a plus en plus de personnes qui viennent au service de conso, ben ça nous donne une bonne idée qu'il y a plus en plus de personnes ben, qui sont conscientisées aussi de ne pas consommer tout seul, ce qui est une bonne chose. Là, mm-hmm. Mais oui, on voit aussi une augmentation des surdoses environ de 33 % là, donc ça va en augmentant quand même là, les surdoses.
Quand même beaucoup, 33 %
Oui.
Ouais, c'est 3 sur 10, là.
Ah, c'est capoté. Ça me fait vraiment capoter.
Est-ce que... parce que le crack, t'as parlé du crack tout à l'heure. Est-ce que c'est encore vrai? Moi, quand j'étais plus jeune, je dirais vingtaine, trentaine, on a commencé... Ben, mettons 20 ans, on a commencé à entendre parler de ça, mais c'était vraiment aux États-Unis.
Ouais.
Puis on nous disait qu'il s'agit d'une seule bouffée de ça, puis tu peux rester accro jusqu'à la fin de tes jours. C'est encore le cas aujourd'hui?
Bien, c'est sûr que ça dépend aussi de la personne. Est-ce qu'elle a tendance à comme avoir des dépendances plus facilement ou pas? Là? Donc, le danger avec ça, c'est que souvent les personnes qui vont consommer une fois, c'est des consommateurs de fin de semaine, des consommateurs, ouais. Ils vont croire qu'ils ont le contrôle. Ils vont se dire « Ah, ben moi, je peux arrêter quand que je veux. »
Mais le crack, tu peux être consommateur juste une fois par semaine?
Bien, tu peux être... Bien, souvent, ça commence par « Je consomme une fois, mais par la suite, bien... » T'as comme un manque de ça, donc tu vas continuer à en prendre, ça va être comme une béquille au final. Donc c'est sûr qu'une fois qu'on commence à consommer quelque chose, pour arrêter, même si on a l'impression qu'on a le contrôle, ça peut quand même devenir plus difficile. Là.
Les consommateurs que vous voyez avec Sabsa, là, quelle tranche d'âge environ? Est-ce que ça rajeunit?
Je dirais pas nécessairement que ça rajeunit. Ce qui est surprenant, c'est que ça peut être beaucoup de personnes qu'on ne s'imagine pas nécessairement. Ça peut être des personnes qui ont un travail. Là. Ça peut être, oui, il y a des personnes qui sont en situation d'itinérance, mais il y a des personnes qui ont un travail, qui ont une famille. Donc, ça peut vraiment toucher tout le monde, là, la consommation. Là.
Puis, est-ce que c'est plus hommes, femmes qu'on observe dans les derniers temps ou c'est assez mélangé?
C'est assez mélangé. Là. Je pense qu'il y a peut-être une proportion un peu plus grande d'hommes, en effet. Mais il y a vraiment, c'est assez mélangé là, le nombre de les personnes qu'on voit. Là.
Les produits pour neutraliser ça, est-ce qu'ils sont disponibles chez SAPSA?
Oui, donc ils sont disponibles, ils sont gratuits, on appelle ça le naloxone.
Ouais.
C'est disponible en pharmacie. Et dans le fond, quand il y a quelqu'un qui est en surdose, on peut y administrer le naloxone qui est un antidote pour faire en sorte que bon, ça neutralise et ça permet à aux urgences d'arriver et de traiter la personne. C'est un peu le même principe qu'un épipène. Donc, quelqu'un qui a une allergie, on administre l'épipène, ça ne va pas guérir la personne, mais ça permet aux urgences de se déplacer.
Mais on devrait-tu avoir ça avec nous tout le temps? C'est-tu quelque chose qu'on devrait traîner dans les saisons des festivals? Moi, mettons, je suis pas quelqu'un qui consomme de drogue. Moi, je suis plus une fille de petits verres, là. Mais est-ce que je devrais aller chercher ça à la pharmacie d'un coup que je vois quelqu'un autour de moi? Ou...
Bien, c'est sûr que comme on encourage là, d'avoir du naloxone. Là, donc, plus il est disponible, plus on est capable là, de prévenir les surdoses.
Mmh. Bien, tu sais, exemple, au centre-ville de Québec, il y a des commerçants qui ont ça à l'intérieur du commerce, du naloxone.
Intelligence.
Les ambulanciers ont tout ça, les policiers ont tout ça, les travailleurs de rue ont tout ça. C'est sûr et certain que si tu es dans le centre-ville de Québec, Audrey, puis si tu as à travailler là, de l'avoir sur toi, ça nuira certainement.
C'est fou, ça nuit pas, là.
En milieu scolaire, je voyais un article passé aujourd'hui où on parlait des drogues en milieu scolaire, de comment en parler avec les adolescents. Il y a une statistique, bon, c'est pas ici, là, c'est en Ontario, mais on disait que près de 30 % des élèves en Ontario de la 9e à la 11e année déclarent avoir consommé au moins une substance dans la catégorie toute drogue. Là. Et fait qu'on parle de cannabis, mais on parle aussi de cocaïne. C'est quand même jeune quand tu penses. Là,
ouais.
C'est des enfants aux alentours de comme 13-14 ans. Moi, j'étais loin de ça. Et comment tu abordes ça, justement, avec les jeunes?
Bien, c'est sûr que, comme, tu sais, en tant que parent, il faut quand même briser les tabous, là. Donc, il faut, comme, parler de c'est quoi la consommation, les encourager, bien, de préférence, justement, d'en parler, là, de ne pas garder ça pour eux si jamais ils ont décidé de consommer. Parce que c'est ça, le danger. Le danger, c'est que la personne, elle consomme toute seule. Le danger, c'est que la personne, elle ne sait pas comment consommer de façon responsable. Puis c'est là qu'on est à risque de surdose, parce que il n'y a pas un enseignement qui est fait par rapport à ça. Il n'y a pas la sensibilisation de référer aussi les gens à des organismes comme nous. Puis c'est sûr que comme en brisant les tabous, puis en nommant c'est quoi aussi les dangers là, de la consommation, là, c'est déjà plus efficace d'en parler que de rester dans le tabou et faire comme si de rien n'était, parce que la personne, à ce moment-là, elle va s'isoler puis elle va consommer toute seule. Et c'est là le problème. Là.
Y a-t-il des utilisateurs de drogues dures qui fonctionnent dans la société, qui sont capables d'avoir une job 40 heures par semaine puis que jamais personne ne puisse s'en douter?
Oui, puis c'est souvent ça que quand il arrive une surdose, c'est là qu'on est surpris. On se dit, pourtant, cette personne-là, il avait un travail, une famille, une maison, puis tout à coup, il y a une surdose, mais souvent, quand que justement la personne, elle ne va pas en parler ouvertement, c'est malheureusement ça qui va faire en sorte que comme elle va s'isoler, puis au final, nous, on n'était pas au courant qu'il consommait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment ouvrir le dialogue là, avec nos proches, ne pas les laisser consommer toute seule, qu'il y ait les bonnes références de si jamais ils veulent de l'aide, voici les références, va faire tester tes substances.
Mais on dirait que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a quand même 100%. Il y a un jugement là, qui vient avec ça. Là, demain matin, moi, mettons, je suis fonctionnelle, puis tu découvres, Yann, que je prends de la coke tous les samedis, puis que je suis bien d'accord à ça, c'est parce que c'est difficile à dire, là. C'est difficile à assumer.
Je ne serais pas le premier surpris.
Non, franchement, je peux sûrement pas prendre ça, je suis juste speedé en partant, ce n'est pas une bonne idée. Là.
Non, c'est vrai, mais c'est juste qu'on a tendance à croire que les gens qui prennent ces drogues dures-là, c'est des gens qui sont dysfonctionnels dans notre société, c'est des gens qui essaient de chasser les mouches à moins 40 là, dans le secteur de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Mais toi, tu me confirmes qu'il y a des gens qui travaillent dans les entreprises à Québec qui peuvent être utilisateurs de drogues dures. Tu me parlais de la clinique SAPSA. Exemple, je m'appelle Paul, puis justement, je suis avocat. Je m'appelle Paul, je suis avocat, puis je vais aller chez SAPSA pour faire vérifier ma dope. Est-ce que je suis fiché? Est-ce que vous gardez des traces écrites de mes démarches?
Non, c'est sûr qu'on va prendre pour des statistiques. Là, donc, on veut savoir un peu, on a accueilli combien de personnes et tout.
Ouais.
Mais c'est confidentiel. Là, donc, il n'y a personne qui va le savoir que Paul est venu faire vérifier sa substance. Surtout dans la vérification substance, là, on prendra juste des données pour des statistiques. Quand tu vas au service de consommation supervisée, on te demande un pseudo. Donc, on ne te demande pas nécessairement ton nom. Là, c'est pour garder la confidentialité. Donc, Paul, tu pourrais décider que tu t'appelles, Boulevard. Ça serait ça ton pseudo.
Fait non, prenez pas ça.
C'est pas subtil, ça, là.
À chaque fois que tu viendrais, on te demanderait ton pseudo. Donc, on ne le sait pas là, que tu t'appelles Paul. Ça fait en sorte que, justement, tu n'auras pas la crainte de « Oh, mon Dieu, on va m'afficher » puis okay. Ils vont le savoir.
Mais on sait que Boulevard est venu tant de fois, mettons.
Oui, c'est ça.
Puis, tu parlais de Paul. Mettons, moi, je suis Sabrina, puis j'ai 16 ans. Puis avec mes trois chums de filles, on décide en fin de semaine que nous autres, on va essayer de la drogue dure. Est-ce qu'on peut se rendre à la clinique de consommation supervisée où il y a un âge minimal? Comment ça fonctionne?
Il y a un âge quand même. Donc, il y a quand même des protocoles pour ça. S'il y a des jeunes qui viennent utiliser nos services, on a un protocole. Donc, c'est pas vraiment notre clientèle cible, là, les jeunes.
OK. C'est quoi le protocole, si je peux te demander?
C'est sûr que ça va au cas par cas, ou veut, pas, mais si un jeune qui vient parce qu'il veut faire vérifier sa substance, dépendamment de la situation, tu sais, on doit quand même prévenir les services de protection de l'enfance, là, comment telle personne a des substances et tout, là. Donc, vu qu'on est en collaboration avec le CIUS, ça aide, mais... c'est ça, c'est vraiment pas notre clientèle. Tu sais, okay. Souvent, quand on va être avec ce tranche d'âge-là, ça va être pour de l'éducation, ça va être plus comme de la prévention.
Parce que c'est une réalité, t'en as des jeunes qui tombent là-dedans et plus tôt que tard. Okay. Ouais.
Fais-moi rentrer à la clinique SABSA. Bon, je m'appelle Audrey, puis je m'en vais à la clinique SABSA pour faire affaire avec le site d'injection supervisée. Je me présente là.
Ouais.
Je choisis le trio, je fais quoi?
Ben, dans le fond...
trio 2!
La clinique puis le service de consommation sont à deux places différentes physiquement.
Sont à quel endroit?
Donc, la clinique est sur la Couronne, là, dans Saint-Roch.
Ouais.
Et le service de consommation, il va être aussi dans Saint-Roch, mais il est un petit peu plus comme caché, là. Je sais pas comment... il est proche du Malestrum, là. Vous voyez un petit peu, c'est
oui,
où, là?
Oui.
Donc, il va être proche de là. Il est quand même subtil, là. Il n'y a pas une grosse affiche qui dit « Venez consommer ici », là. Donc, c'est à 1 km environ l'un de l'autre, là.
OK. Fait que là, moi, je m'en vais à l'endroit où je vais être supervisé pour consommer. Ouais. Je rentre là, ça fonctionne comment?
Tu rentres. Si c'est la première fois que tu rentres, on a des intervenants sur place aussi, là, donc ils vont t'accompagner dans le processus. Et on a des infirmières qui vont être également sur place là, pour s'assurer que tout est correct. Donc, tu rentres, on va te demander ton pseudo. C'est sûr, c'est la première fois que tu viens, on va t'expliquer un petit peu, ah oui, il faut que tu crées un pseudo, confidentialité et tout. Donc, tu nous donnes ton pseudo, je vais te demander qu'est-ce que tu consommes aujourd'hui. Tu vas me dire, oh, aujourd'hui, je prends de la cocaïne, puis je vais l'inhaler. Donc, tu nous dis comment que tu penses consommer. On va te mettre dans la salle d'attente si jamais les cubicules sont pleins. Une fois que c'est ton tour, je vais te le dire, ah, Boulevard, c'est ton tour maintenant, tu peux aller dans la salle de consommation. Tu t'installes et si tu as besoin de matériel pour consommer, nous, on va te donner du matériel propre, donc du matériel qui n'a pas été usé. Et une fois que tu as fini de consommer, tu mets ton matériel de faire son sécuritaire dans les endroits appropriés pour ça. Donc, ça évite qu'il y ait du matériel utilisé dans la société, là, dans les parcs, dans la rue. Et par la suite, un temps de repos. Donc, tu peux aller dans la petite salle de repos où tu peux justement attendre que ton boss finisse et tu peux quitter par la suite. Donc, ça va être ça, la roue de l'usager.
Il y a une salle de repos.
Oui, bien, tu sais, c'est quand même assez petit, là, donc une section de repos.
OK. Ouais. Parce que là, je vois qu'il y a des réactions. Les gens disent, hey, ça existe, ça. Juste vous dire, moi, je suis né au centre-ville de Québec. Là. J'ai grandi là longtemps, puis j'ai habité là jusqu'à 30 ans. OK. Je restais dans un endroit qui était à côté d'un escalier qui faisait la transition entre la basse ville et la haute ville. C'est le secteur juste à côté de l'Aubrivière.
Oui. Oui.
Bon, l'Épine-et-Cloutier, là, moi, je restais au troisième étage de l'Épine-et-Cloutier. Puis, dessous les escaliers, tu as comme une genre de falaise, là, un genre de talus. Puis, malheureusement, il y a des gens qui allaient se piquer dans les escaliers parce qu'il y avait un endroit pour s'asseoir. Okay?
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens, après s'être piqués, ils prenaient la seringue puis ils la pitchaient en bas. Qu'est-ce qu'il y avait en bas? C'était un terrain de quelqu'un qui était un locataire puis il y avait des enfants.
Hmm.
Fait que moi, là, les cliniques d'injection supervisée, là, je suis pour ça à 250% parce qu'il n'y a pas une seringue qui sort de cette clinique-là qui va se ramasser dans les cours des enfants. ou les enfants.
Ah, c'est de la prévention. Hein?
Chaque
c'est
jour, ça. À Québec, il y a des escouades. Je ne sais pas qui s'occupe de ces escouades-là, Imena, mais c'est des escouades qui vont aller faire tous les parcs où les enfants peuvent jouer, puis ils vont aller chercher justement les résidus de la nuit ou de la soirée d'avant. Ces gens-là sont primordiaux pour notre société. Fait que je comprends qu'il y en a qui peuvent réagir en disant ah, « ça existe, ça, on les supervise. » Oui, ben moi, là, ayant grandi là une bonne partie de ma vie, je suis pour ça parce que je veux pas que ce matériel-là pique un enfant puis que malheureusement, cet enfant-là pogne le sida ou une autre maladie. Tu sais.
Est-ce que ces gens-là sont contraints à aller absolument à la fameuse salle de repos ou ils ont le droit de consommer puis de retourner?
Ils ont le droit de consommer et de quitter. Là, donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas obligés d'attendre, mais c'est sûr que si tu veux comme un peu avoir ton buzz en paix, là, pour dire ça comme ça, pas être dehors, bien souvent, les gens ils vont attendre un petit peu.
Qui paye pour ça qu'on nous demande? C'est-à-dire, je vais élaborer la question, là, les IPS que vous avez chez SABSA, les gens qui aident justement ces personnes-là dans la rue, ces services-là sont gratuits, de ce que je comprends?
Bien, tu sais, il y a quand même une nuance à faire dans le sens que, comme tu sais, SABSA, on ne fait pas que ça. Là. Donc, les IPS chez SABSA, ils font vraiment de la clientèle pour toutes sortes de choses. Donc, ça peut être autant des otites, ça peut être des maux de quelque part. Donc, c'est des personnes qui vont souvent être en état de précarité, qui ne sont pas nécessairement des consommateurs. Là, mais qui sont à bas seuil puis qui vont venir consulter les IPS. Donc ça, c'est une chose, ça, c'est une enveloppe, puis c'est vraiment beaucoup bien nous entendre qu'on a. Le service de consommation supervisée, ça, c'est un deuxième truc, c'est une enveloppe complètement différente. Vu que c'est une approche de santé publique, ça a été prouvé là, que c'est une question de santé publique, là, ça fonctionne, ça prévient les surdoses, ça... Donc ça, c'est sûr qu'on a une entente avec le CIUSSS, la capitale nationale. Donc okay. C'est vraiment la santé publique qui va aller dans tout ce qui est services de consommation supervisée.
Mais les gens qui sont chez SABSA, c'est pas bénévolement, là?
Non, c'est pas bénévolement. Puis, excusez, là, je viens de réaliser, j'ai fait un lapsus. Là. Donc la VAN qui vérifie les substances, c'est la santé publique, pardon. Et le service de consommation supervisée, c'est le service justement de dépendance au CIUSSS. Okay. Donc c'est une enveloppe, juste à rectifier, là, mais oui, on a plusieurs enveloppes selon plusieurs projets. Mais non, ce n'est pas des bénévoles. Donc, les IPS qu'on a à SABSA, ça va être des personnes du réseau qui viennent à SABSA. On va avoir des employés aussi qui vont travailler pour nous, qui vont faire beaucoup de choses, là, non seulement de la consommation. Là, donc, ça va être beaucoup accompagner les gens quand ils veulent trouver un logement. Donc, on peut les accompagner un peu là-dedans. On peut aussi donner des produits menstruels à ces personnes-là pour prévenir. Mm-hmm. Donc, on fait beaucoup de choses là, à SAPSA. Ce n'est pas seulement de la consommation. Là.
OK. Supposons que j'ai une problématique de santé. Je peux me présenter à la clinique SABSA?
Oui.
Ça coûte combien?
C'est gratuit.
C'est toujours gratuit. Je n'ai pas à présenter ma carte d'assurance maladie.
Non, exact.
La façon dont vous financez, bon, on t'en a expliqué une partie aussi. On peut faire un don aussi, parce qu'il y a la fondation SABSA qui existe. Puis c'est une super belle fondation, puis vous êtes là pour les bonnes raisons, tu sais. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas détenteurs d'une carte d'assurance maladie à Québec?
Oui, il y en a quand même beaucoup plus qu'on en pense. Donc, ça va être des gens qui vont souvent des affiliés du réseau, soit parce que justement sont dans la rue, soit parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés quand ils arrivent aux urgences, ou ça peut être aussi des personnes qui sont dans un statut précaire migratoire, donc on en voit ça aussi, là, des personnes qui n'ont pas de RAMQ, mais ces gens-là...
Ça coûte cher.
Ces gens-là, ils ont quand même droit à des soins de santé, là, donc ils viennent chez SABSA, puis nous, on va les prendre comme qu'ils viennent, on ne va pas les stigmatiser, on va vraiment avoir une approche qui va être adaptée à cette clientèle-là. Puis, autant que ce soit une otite, que ça peut être l'hiver, on a souvent des engelures. Donc, nous, on est capable là, de soigner ça. Puis, ça évite que cette personne-là aille aux urgences. Puis, ça vient justement comme craint que beaucoup de monde aux urgences.
Engorgé.
Donc, c'est une approche qui fonctionne.
Chapeau, c'est drôle. On a un texto qui est entré qui nous dit je travaille justement avec une clientèle là, qui va chez SABSA, l'Interzone. Puis, il y a des gens qui sont contents d'en entendre parler parce que c'est vrai que c'est peu connu, en fait, au quotidien. On n'en parle pas pour le fun d'en parler, là, tu sais, de SABSA, par exemple.
Si on n'a pas besoin de nos services, souvent, on n'en entend pas parler, en effet.
Non, c'est ça. Puis est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous êtes affilié au réseau santé et tout ça? Par exemple, moi, je ne sais pas, moi, je vais consulter pour, une maladie transmissible sexuellement.
Oui.
Bon, est-ce que ça rentre dans le dossier, puis ça va être là tout le temps?
On n'est pas affilié au réseau, c'est un partenaire. Donc, c'est sûr que comme... On est capable de voir un petit peu dans... Les IPS sont capables d'aller voir dans le dossier parce que eux autres, ils travaillent pour le réseau.
Ouais.
Mais oui, c'est des partenaires. Donc, si jamais tu viens consulter, puis on voit que comme, oh, t'es déjà allé consulter pour la même raison la veille, bien, on est capable d'appeler, on est capable de s'informer. Okay. Donc, okay. On n'est pas complètement déconnecté, mais on n'appartient pas au réseau, c'est vraiment nos partenaires.
Puis quand je me fais prescrire, bon, je n'ai plus de carte d'assurance maladie, j'habite dans la rue depuis 2 ans, je me fais prescrire un médicament. Après ça, je prends la prescription, puis oui. Je vais chez Jean Coutu, puis je peux avoir le produit que vous m'avez prescrit?
Oui, c'est ça. Tu peux aller justement à la pharmacie. C'est sûr que comme dans des cas très, très, très exceptionnels où tu as besoin d'un médicament qui n'a pas de générique, que tu n'as pas accès à la RAMQ et tout,
ouais.
C'est sûr qu'on peut avoir un petit fonds là, pour aider ces personnes-là, mais la plupart du temps, là, on peut envoyer la personne.
Vous en faites beaucoup, je vous félicite. Mm-hmm. Pour plus d'informations, c'est sabsa.ca, sabsa.ca.
Oui.
C'est bien ça. Salutations à toute l'équipe. Merci beaucoup, Jimena Ruiz Aragon. J'ai eu peur de scraper ton nom.
C'est correct.
Jimena Ruiz Aragon.
C'est super beau en plus.
Directrice générale de SAPSA. Je t'assure de passer une belle fin de journée, puis tu remercieras ton équipe de notre part.
Merci beaucoup à vous autres.
Salutations. 11h04, vous avez des choses à nous dire. On fait une courte pause. 418-971-1021, 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer.